Bonjour à tous.
C'est quand même curieux que le personnage principal soit une blanche. Non seulement c'est une blanche, Piper, mais en plus elle est absolument ravissante. Vous rajoutez le fait qu'elle habite Brooklyn et qu'elle achète tout sa nourriture dans un magasin bio, et vous dites qu'est-ce qu'elle fait dans ce milieu-là. Mais il me semble que c'est très intelligent sur le plan scénaristique, parce que du coup, ben voilà, tout est fiction.
Piper Chapman se retrouve catapultée dans la prison de Litchfield et noue avec elle. Mais peu à peu, la protagoniste d'Orange is the New Black cède la place aux invisibles de la société, surreprésentés dans les prisons. Femmes noires, lesbiennes, transsexuelles et pauvres et autres discriminées dont la série fait ses héroïnes. À partir de vendredi, la 6e saison sera diffusée sur Netflix, continuant de creuser le sillon d'une critique de la société américaine et de ses tabous. La micro-société de femmes d'Orange is the New Black agit comme un révélateur des inégalités et des tensions qui traversent l'actualité et mettent le feu aux poudres. Un miroir dont émerge une fiction spontanée, mettant en lumière l'ironie et la perversité d'un système inégalitaire, guidé par des considérations économiques et des abus de pouvoir en cascade. Puis nous garderons l'œil rivé sur l'écran en compagnie du grand réalisateur philippin Lav Diaz, qui nous présentera son tout dernier film qui sort aujourd'hui, La Saison du Diable. Nous allons parler de la série américaine Orange is the New Black en compagnie de Marie Turcan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de séries TV et rédactrice en chef adjointe de Numérama. Avec nous également, en face de vous, Pierre Cerisier. Bonjour.
Bonjour.
Sériephile, selon vos propres dires, et auteur du blog Le Monde des séries, hébergé par le site internet du journal Le Monde. Alors bonjour à tous les deux. Peut-être commencer par planter le décor de la série, mais le décor aussi du monde de la fiction carcérale. C'est une histoire relativement ancienne, Pierre Cerisier, qui n'a pas nécessairement commencé avec celle-là, mais on pense à The Prisoner, la série The Prisoner des années 60, la fin des années 60. Justement, quel monde carcéral était représenté alors et comment est-ce que a évolué cette représentation et même ce thème, puisque là, il s'agit d'une prison pour femmes dans la série Orange is the New Black.
Alors, comment le monde carcéral a évolué
en série
dans les séries. J'ai un peu envie de vous dire pas beaucoup, c'est-à-dire que l'enfermement reste de toute façon l'enfermement, c'est-à-dire c'est l'incapacité à pouvoir jouir librement de sa liberté et de pouvoir faire en gros ce qu'on veut, et c'est aussi un moyen de justifier le paiement d'une dette pour une infraction qu'on a commise à l'égard de la société. Ce qui est intéressant dans Orange is the New Black, c'est qu'au départ c'est une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dame qui s'appelle Piper Kerman qui a, à la fin des années 90, était enfermée pendant 15 mois. Elle a purgé une peine d'ailleurs de 13 mois sur les 15 mois.
Qui correspond à ses critères,
hein,
décrit une blanche wasp d'un milieu aisé de la banlieue.
Et qui donc, en théorie, n'a rien à faire dans un endroit pareil. C'est-à-dire que par son lieu de naissance, son origine sociale, sa position dans la société, normalement, la part de chance qu'elle termine dans une prison est vraiment infime.
Alors là commence la critique politique, Pierre Cerisier. C'est-à-dire
exactement.
On pourrait se dire, ah bah voilà, on prend un personnage auquel on peut s'identifier. Mais non, elle arrive pour mieux finalement disparaître petit à petit derrière les personnages des autres prisonnières qui finalement prennent aussi la place.
Et c'est
place.
Là que c'est très malin. C'est-à-dire que on entre dans la prison avec quelqu'un qui normalement ne doit pas y aller. Et donc, du coup, on a un regard qui est complètement décalé par rapport... Si on avait, par exemple, imaginé une femme d'origine afro-américaine ou latino, dont les chances de terminer en prison sont beaucoup plus grandes, ça aurait été moins intéressant. Là, en fait, on suit quelqu'un qui ne doit pas y aller. Du coup, le regard est très frais et on a un côté un peu observatoire, presque documentaire.
Marie Turcan.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette idée de la femme qui ne doit pas y aller, mais surtout, il n'y aurait pas eu de série sur une femme noire, noire qui rentre en prison. Piper Kerman, elle a réussi à écrire un livre à propos de ça, mais Jenji Cohen, qui a créé et adapté la série, elle l'utilise, comme elle le dit elle-même, comme un cheval de Troie. Elle a utilisé Piper, son héroïne blanche, pour rentrer dans une prison. C'est un appât. Mais en fait, c'est un appât pas que pour le spectateur, c'est surtout un appât pour les diffuseurs, pour les chaînes qui restent arrosée par un racisme ordinaire qui est latent depuis des années et des décennies, et qui fait que c'est très difficile encore aujourd'hui de faire accepter une série qui a comme personnage principal 10 personnes de couleur, que ce soit des minorités latino-américaines, afro-américaines, asiatiques, et encore vous avez parlé des minorités de genre et sexuelles. Cette dichotomie, elle est double. Elle est à la fois dans le fond de la série, mais aussi sur la forme et la manière dont elle a été vendue. Et
elle est une malice aussi pour attraper le système économique des séries américaines.
Mais bien sûr,
et le système de diffusion.
Et surtout, Netflix maintenant met cette série en avant comme nous sommes les premiers à avoir mis cette série sur le devant de la scène. C'est notre nous sommes une plateforme différente des autres diffuseurs, donc nous ne sommes pas comme les chaînes américaines classiques. Regardez, nous avons beaucoup de diversité. Nous avons Orange is the New Black, nous avions Sense8 qui a été annulé, et Orange is the New Black devient par défaut, parce que House of Cards commence à disparaître, devient par défaut...
De par les affaires MeToo. Hein.
De par les affaires MeToo et Kevin Spacey qui a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs hommes, qui a été mis en retrait, puis viré de sa série, et donc House of Cards va s'arrêter la saison prochaine, à la fin de la saison 6. Et donc, à ce moment-là, Orange is the New Black devient par défaut la série étendard de Netflix, mais ça fait déjà 6 ans qu'elle est là. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué pour Netflix de se ranger derrière cette série qu'elle met en avant un peu comme le drapeau arc-en-ciel qu'ils mettent partout dans les grandes rues de Paris. Aujourd'hui, on a des drapeaux arc-en-ciel.
Alors, le drapeau arc-en-ciel, il faut expliquer pourquoi. Hein. Il y a toute forme de discrimination. Il y a beaucoup de formes de discrimination. Il y a d'abord le choix du sujet. Pierre Cerisier, quand même, cette petite immersion dans l'histoire des séries et de la prison. La prison, ça a toujours été un sujet politique.
Tout à fait.
Dans les séries.
Et surtout, il faut quand même relativiser la prise de risque par Netflix. C'est-à-dire qu'ils prennent un sujet qui fascine. C'est-à-dire que ce soit le crime ou l'enfermement, la carcéralisation des personnes, ça reste fascinant. Je veux dire, il suffit de regarder le nombre de films qui ont été faits sur ce thème-là. Et puis avant, il y a quand même eu des séries qui ont eu un retentissement assez fort.
Alors,
que ce soit
Oz,
mais aussi Prison Break. Prison Break, c'est un super formidable succès. Alors effectivement, ça ne met en scène que des hommes et quelques femmes et une femme. Bon, là, c'est l'inverse. Donc en fait, la vraie bonne idée, c'est de se placer dans une prison de femmes. Mais en soi, quand même, l'idée qui est proposée à Netflix, ils prennent pas trop de risques. Ils savent qu'il y a très fortes chances que ça marche.
Ah non, mais aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui,
on a une ribambelle d'actrices de diversité issues de toutes les minorités possibles. On n'aurait pas pu marketer, je répète, cette série en tant que première saison. Paf, on vous donne cette série-là et prenez-la comme elle vient. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu ce succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait le succès.
On va peut-être expliquer quels sont justement les types de tensions qui sont mises en avant. On a parlé de diversité, c'est plus que des diversités et des discriminations. C'est aussi une superposition de discrimination.
Oui,
c'est-à-dire, on parle de la surreprésentation, mais aussi des pratiques. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui peuvent être à la fois pauvres, noires, lesbiennes, etc., et dont on raconte la vie et pas simplement cet aspect-là de leur vie. Oui, c'est là l'originalité, peut-être, au départ de la série Marie Turcan.
On appelle ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand on cumule, entre guillemets, plusieurs minorités. C'est-à-dire, vous l'avez cité, être à la fois une femme noire, lesbienne. Donc, c'est pour éviter la différenciation de vous êtes obligé de vous définir comme une femme noire ou comme une femme lesbienne. C'est pour expliquer aussi que quand on cumule plusieurs oppressions, c'est un combat encore différent. Et donc, la série Orange is the New Black réussit bien à montrer les spécificités de chaque cas. On a une personne trans qui est coiffeuse.
C'est Burnett, le personnage de Burnett.
On a plusieurs femmes lesbiennes blanches. On a des femmes noires hétérosexuelles qui se trouvent dans une prison où il y a beaucoup une surreprésentation de lesbiennes et encore pas vraiment dans la série. Donc chaque cas est traité de manière à ce que on puisse souligner et dessiner un paysage vraiment très divers. Et c'est un peu ça la beauté de la série et le bonheur qu'ils ont d'avoir tellement de personnages. D'aucuns diraient un peu trop de personnages par moment, mais ça leur permet vraiment de traiter un vaste monde.
Dans les séries qu'on a pu connaître auparavant, vous avez cité Oz, qui est un bon exemple, Pierre Cerisier, il y avait la question des communautés et même des gangs et de leur violence. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir à la fois la question de la famille, de la communauté, etc., mais aussi de s'en écarter complètement. C'est-à-dire que finalement, les liens humains reprennent à l'intérieur des différentes communautés. On sort de ce modèle américain segmenté.
C'est-à-dire qu'en fait, on a deux mouvements dans la série. C'est que vous êtes à la fois enfermé, donc il y a un nouveau réseau de relations qui se crée entre ces femmes qui partagent un même espace commun et elles n'ont pas le choix, donc elles nouent des nouvelles relations, mais malgré tout il est sans cesse fait rappel à l'intérieur des épisodes de ce qu'elles ont été avant, c'est-à-dire que vous avez un système de sortie de la prison
par le flashback,
les souvenirs où on voit, bon bah je vivais comme ça, et notamment ce qui est un des plus beaux personnages je pense, c'est celui de Suzanne, où on voit que cette jeune femme noire a été élevée par des parents blancs, elle a toujours vécu avec un fort sentiment d'anxiété et tout ça, et en même temps elle a un caractère très amical, etc. Et ça permet d'avoir des va-et-vient, et finalement ça permet de montrer que la prison peut déshumaniser, pas totalement parce qu'elle continue à avoir des relations humaines, mais le fait de sortir permet de réhumaniser chaque personnage. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de savoir pourquoi ces femmes sont là. Parce que le fait qu'elles aient commis un acte, finalement, ne suffit pas à les définir. Et on a besoin d'en savoir un peu plus sur elles-mêmes, d'où ça vient. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, elles sont dans cet endroit-là. Et il n'y a pas forcément de fatalité à ça.
Alors d'autant plus que la prison est une sorte d'état de nature, de terre vierge qu'il faut réapprivoiser comme ça. Et on comprend que finalement, elle est le terreau de violences importantes parce que les inégalités s'y répètent, s'y démultiplient. C'est aussi ce miroir-là de l'actualité qu'on retrouve.
On retrouve surtout quelque chose, une image inversée, c'est-à-dire que ce qu'on attend aujourd'hui dans une société patriarcale, ou ce qu'on attend d'une femme, c'est que finalement elle se tienne à sa place, qu'elle soit une bonne mère de famille, qu'elle soit prévenante, qu'elle soit amoureuse de son mari, qu'elle rentre dans son genre. Et finalement, on se dit, les femmes, elles sont très différentes. Elles peuvent être tout à fait différentes. Elles peuvent être criminelles, elles peuvent être violentes, elles peuvent être anxieuses, elles peuvent être homosexuelles. Et en fait, c'est ça qui était nécessaire à rappeler, c'est que le genre peut être un outil d'oppression terrible, presque aussi puissant que l'est la prison.
Et au-delà du genre, l'assignation, puisque elle-même, quand elle vient se rendre, l'assignation, elle est une jeune femme jolie, blonde, et donc personne ne pense qu'elle vient se rendre.
Non, mais c'est surtout que la prison est aussi un révélateur. C'est à la fois un instrument d'oppression et d'enfermement, mais c'est aussi un endroit où ces femmes sont elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans leur diversité, dans leur complexité, et même dans leur travers et leurs défauts. Elles ont le droit de ne pas être vertueuses, elles ont le droit de ne pas être comme on voudrait qu'elles soient.
Alors il y a le miroir de la prison, mais le miroir aussi de ce qui se passe dans la société autour d'elle. Je vous propose d'écouter un extrait, on est dans la saison 4, c'est le 13e épisode.
In 5, 4, 3, 2, as many of you are aware, we suffered a terrible tragedy here at the Litchfield Correctional Camp yesterday. As warden, it is my job to ensure that this prison runs safely and effectively. Because we are a woman's camp, that responsibility is often underestimated.
Oh, shit. He's going off book.
The assumption being that minimum security women do not pose a physical threat. And because of that, a young woman lost her life.
Alors, une jeune femme a perdu la vie. Là, dans cet extrait, une détenue a été tuée par un surveillant qui tentait de la maîtriser lors d'une émeute. Et ça fait totalement écho à ce qui s'est passé aussi dans la société réelle américaine. C'est ce fameux mouvement hashtag Say Her Name. Et d'ailleurs, le clin d'œil est plus qu'évident puisque son nom n'est pas directement mentionné. Et c'est ce qu'on va reprocher justement à l'institution, à la fois de couvrir ses crimes, mais aussi de déposséder les individus de leur identité. Qu'est-ce qu'on peut dire justement, Marie Turcan, sur à la fois le Say Her Name et sur la manière dont ça apparaît très vite finalement dans la série en écho?
Bien sûr, ça fait écho aussi au mouvement I Can't Breathe qui a été lancé après qu'une personne, un vendeur de cigarettes illégales noires a été étouffé par des policiers. Et là, on retrouve évidemment ce qui s'est passé. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en tant que personnage, en tant que spectateur, nous, on s'est attaché à ces personnages. Nous, on fait la différence, on les connaît par leur nom. Poussey, le personnage qui meurt, c'est une des plus importantes, une des plus aimées des fans. Nous, on les connaît, mais eux, à l'intérieur du système, en fait, elles sont invisibilisées et elles sont invisibles. Et c'est le pouvoir de la fiction à ce moment-là, il est extrêmement fort parce qu'il nous permet, nous, de comprendre de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ces familles afro-américaines, de ces familles de couleur qui subissent ce racisme. Et à travers ça, du coup, on a la possibilité d'avoir un point de vue d'autant plus personnel, parce que nous on se dit mais oui, nous on connaît son nom, nous on l'a vu, c'est notre amie, elle fait partie de notre famille, on la connaît, dites son nom. Et c'est le fait d'utiliser la fiction de cette manière là et en plus en tuant une des personnages les plus appréciés des fans, ça a toute cette puissance et ça permet d'autant plus de faire l'écho de manière intelligente, parce qu'il y a des séries qui peuvent l'utiliser de manière un peu moins intelligente, alors que là c'est vraiment très fin.
Alors ça permet de faire un petit détour du côté de la production de séries en soi, hein. C'est aussi la capacité de ce monde-là d'être très créatif, de réagir aussi très très vite à ce qui se passe autour, puisque les séries sont fabriquées sous forme d'épisodes, parfois confiées à des réalisateurs très différents, et donc il va y avoir la possibilité de réagir rapidement à ce qui se passe.
Alors le problème, c'est qu'on est dans un mauvais exemple, parce que Netflix produit des séries à la saison, par paquet. Donc on est plutôt sur une réflexion qui est sur l'année en cours.
Mais c'est quand même un délai court par rapport à ce que peut offrir le cinéma.
Mais surtout, ce que ça montre, c'est que le traitement des personnes noires en Amérique est tellement latent, il y a tellement d'exemples dans l'actualité que évidemment d'une année sur l'autre on va quand même pouvoir traiter de ces sujets-là et il y aura toujours quelque chose qui va résonner par rapport à l'actualité. Mais en effet, du coup, Netflix est plus et un tout petit peu moins dans la réaction que d'autres séries de chaînes gratuites comme Blackish qui est diffusée sur ABC, qui elle est vraiment tournée à quelques mois de différence, et là ils peuvent réagir beaucoup à l'actualité.
Alors dans la manière de relayer justement ce racisme institutionnel, mais aussi des discriminations. D'ailleurs, vous disiez miroir inversé, Pierre Cerisier. C'est vrai que, par exemple, le personnage transsexuel Bursette, transgenre apparaît pas du tout par sa transformation, mais dans sa vie familiale aussi. On la voit avec sa femme, son fils, qui viennent la voir justement aussi en prison. Est-ce que justement Netflix, les plateformes, ces géants-là sont peut-être finalement moins conservateurs, en tout cas changent dans la manière de créer des thématiques par rapport à ce qu'on a pu voir dans des séries plus classiques. La violence, les gangs et ce monde masculin-là, c'est un monde qu'on connaissait au cinéma.
Oui, alors après, il y a eu historiquement, effectivement, on va dire que les chaînes qu'on pourrait appeler du câble, c'est-à-dire les chaînes à péage où les gens étaient obligés de payer pour avoir accès au programme, ont été sans doute plus innovantes, plus audacieuses pendant une période de temps que l'étaient les chaînes gratuites, les grands networks. Je suis pas sûr que ça soit aussi vrai aujourd'hui. Et j'ai un exemple justement qui renvoie à cette question des Afro-Américains. CBS, donc qui est, on pourrait dire, l'équivalent de TF1 en France, a créé une série qui s'appelle The Good Fight, où on voit donc une femme WASP, démocrate, être obligée de rejoindre un cabinet d'avocats où tous les avocats sont noirs. Donc comment une blanche s'intègre en milieu noir. Et il y a une critique de la politique, et notamment une critique du mandat Trump, qui est extrêmement pertinente et extrêmement violente. Ils font référence à des tas de choses qu'ils disent. Et tout à l'heure, vous parliez de cette capacité de réaction des séries par rapport à l'actualité. Là, vous regardez The Good Fight, on est presque dans le commentaire éditorialisé de l'actualité.
En temps réel, vous voulez dire.
Presque. Après, il y a toute la saison. Enfin, on ne va pas trop dévoiler de choses, mais il y a des choses sur la vidéo qui aura été tournée à Moscou et dont on se demande si les Russes n'auraient pas gardé une copie et feraient chanter Donald Trump sur ça. Voilà, c'est mentionné de manière extrêmement explicite. C'est dit, personne ne se cache derrière ce sujet.
À Marie Turcan, il y a aussi le ton, quand même, il faut dire. Ce que fait la fiction, cet univers qui, en soi, est un univers grinçant parce que justement on est dans un huis clos embarrassant avec une promiscuité complexe, avec aussi l'attachement à des détails matériels du quotidien et la volonté de montrer ce que l'on ne montre pas chez les femmes, c'est-à-dire la vie intime,
le corps,
les relations sexuelles.
Les cheveux des femmes noires, on en parle très peu dans les séries et c'est vrai que là c'est extrêmement mis en avant.
Les serviettes hygiéniques, cette vie intime.
Mais oui, c'est ça. Et c'est toute la magie de cette série, mais qu'on pourrait aussi donner à Westworld, qui est également une série sur les prisons pour femmes qui est australienne. Il y a Unité 9 qui a aussi une prison, une série sur des femmes en prison qui est une série québécoise. Et ces séries-là sont en effet plus récente, comme vous le dites. Et pour revenir sur la question précédente, les séries dont vous parlez masculines, les The Wire, les Sopranos, c'est des séries de bonhommes. Et ben, ça fait référence à ce qu'on appelle l'âge d'or des séries. On parle les Serious Men, comme on dit. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle The Serious Men. Et c'est vrai, c'est des
de
hommes sérieux.
De la fin des années 90, début des années 2000.
Exactement. C'est cette période-là qui s'est doucement terminée à la limite de Mad Men, qui était à la frontière entre les deux. Et puis là, on entre dans une autre ère qui sont j'aime bien l'appeler les not so serious women, mais les femmes compliquées en fait. Mmh. On en vient, on donne enfin la parole aux femmes et on accepte de pouvoir faire des séries sérieuses et respectées tout en parlant des femmes, tout en n'étant pas obligé d'être dans le drame pur et dur, parce que Orange is the New Black se veut être
humoristique. Alors peut-être qu'il faut donner des exemples sur quand même des contrastes, y compris sur des sujets compliqués. La question justement de l'intersectionnalité et notamment d'un mélange du fait religieux avec l'appartenance à une communauté. Il y a cette idée un peu amusante de Tasty de se faire passer pour juive, elle afro-américaine, pour bénéficier des repas cachers qui seraient meilleurs que les autres. Il y a quand même ce côté justement très amusant de mélanger la vie sordide de la prison et ses complexités matérielles avec les questions communautaires religieuses extrêmement sensibles. Là, c'est le politiquement correct aussi qui est mis en avant.
Oui, c'est vraiment le côté on peut rire de tout et le fait de le traiter de manière. En fait, on peut rire de tout si c'est traité de manière intelligente et c'est exactement ce qu'elle montre. C'est que et en plus sans être offensant et c'est ça qui est curieux aujourd'hui. On accuse beaucoup le politiquement correct de dire on peut plus rien dire, on peut plus rire de tout. Mais elles arrivent à rire de tout tout en n'offensant personne et c'est ça qui est magique et en même temps ce côté comique du coup renforce les moments de drame et c'est un peu ce qui fait le charme et la beauté d'Orange is the New Black, c'est que on a tendance à se laisser berner par la comédie. On va rire pendant 2-3 minutes et après il y a un gardien qui va arriver et mettre 3 coups de torgnole à une détenue qui a rien fait du tout. Et là on se dit il y a vraiment un souci. Et c'est ce changement émotionnel qui marche très bien.
Ce qui est important parce que au départ on a eu du mal à la catégoriser cette série. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une comédie. C'est-à-dire qu'elle était inscrite quand elle candidate aux Emmy Awards en 2014. Elle est dans la catégorie comédie. Alors, elle ne gagne pas cette année-là, mais et l'année suivante, en fait, c'est un drame. Et du coup...
Selon les sujets qu'elle aborde, selon la forme qu'elle
prend. Je crois qu'il y a eu hésitation pour savoir qu'est-ce que c'était. Et au fond... On s'en fiche un peu. Ça n'est pas forcément intéressant. Je veux dire, c'est une catégorie qu'on rit ou qu'on pleure. Finalement, l'essentiel, c'est qu'on ait une bonne histoire. C'est juste la cuisine interne pour distribuer des trophées, mais ça montre l'ambivalence de cette série. En
fait. Et les limites des cérémonies comme les Emmy Awards ou les Golden Globes, qui encore aujourd'hui récompensent les séries selon soit drame, soit comédie. On voit que ça n'existe quasiment plus une comédie.
On arrive sur des objets extrêmement complexes. Ils sont comme des créations théâtrales ou comme des objets de cinéma très mélangés. Ouais. On va écouter un autre extrait. Alors là, c'est la saison 3. On retourne un peu en arrière. Et c'est l'épisode 12.
So now she's accusing us of skimping on training for the new guards, which, to be honest, isn't exactly untrue.
You're saying she's threatening us?
What do you want to do, Dad?
What we did in Arizona. Some time alone, let her clear her head.
She hasn't done anything wrong.
Well, of course not. But we can't weed out all the bullies. Her own protection.
What about when she gets out? I mean, what do you think happens then? Think about the long term.
Alors là, c'est le patron de MCC, l'entreprise qui a repris la gestion de la prison de Litchfield et son père qui discutent. On les entend taper dans une balle de golf. Et le fils fait part justement du manque de formation des gardiens, puisqu'on a recruté des gens qui n'étaient pas formés et dont on a même supprimé la formation. Et la question n'est pas là. En fait, les questions sont purement économiques. La question, c'est de satisfaire les actionnaires, de récolter des dividendes. Et là, on voit d'autres formes de violence apparaître. Vous parliez, Pierre Cérizier, d'un miroir inversé. C'est le miroir américain lorsque justement il s'inverse. Et là, la violence, c'est aussi une violence économique que l'on retrouve dans la prison.
La prison aux États-Unis est un moyen d'oppression des minorités. De toute façon, elle s'est développée. Alors, d'abord, il faut que ça soit quelque chose de rentable.
Non, mais elle s'est privatisée, c'est ça.
Elle s'est privatisée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça soit un objet rentable. Il y a des villes entières aux États-Unis, notamment, je pense à Huntsville, qui vit quasi en totalité, la population qui vit dans cette localité vit grâce à l'enfermement de certaines minorités.
Et avec la perversion dont il faut les remplir.
Et bien sûr, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a tout ça a été documenté. Aujourd'hui, la population carcérale est les Afro-Américains et Latinos sont surreprésentés dans la population carcérale. Et on peut, sans vouloir choquer personne, dire que finalement, c'est un moyen de reségréguer la société américaine. La prison est un moyen réactionnaire pour se dire que finalement, les Noirs et les Latinos n'ont pas les mêmes droits que les Blancs.
Alors, ça n'est rien d'autre. Il y a plusieurs niveaux de critique dans ce commentaire. C'est à la fois le système en lui-même, en tant que tel, c'est-à-dire différence de gestion entre le public et le privé, et ce que ça engendre avec des effets négatifs des deux côtés. D'ailleurs, il y a la critique de la corruption d'un côté, de la privatisation déshumanisante de l'autre. Il y a la critique du système et il y a la critique au niveau des acteurs eux-mêmes.
Surtout, ce que ça montre, c'est que c'est le capitalisme en soi qui a une incidence directe sur cette ségrégation-là. C'est justement, on parlait d'intersectionnalité tout à l'heure, et là, on est dans deux thèmes thématiques qui se mélangent et qui s'influencent les uns les autres. On est à la fois dans la privatisation qui oblige à rechercher le profit et donc traiter de moins en moins bien les détenus. Et si je peux me permettre, sans spoiler, sans divulgager la saison 6 d'Orange is the New Black, il y aura une nouvelle prison et dans laquelle il y a des questionnements sur le type de travail que chaque détenu peut obtenir. Et donc on a les personnes blanches qui ont les meilleurs travaux de couture, de tenir une librairie, de la bibliothèque, et puis les personnes noires qui font le ménage pour 12 centimes de la journée ou 12 centimes de l'heure. Et ça va être abordé également. Donc c'est encore un autre niveau de ségrégation là, qui est par les revenus mis en place par le système qui est censé les aider à sortir de là. Mais sauf que quand on gagne 12 centimes de l'heure, il n'y a aucun moyen que ça les élève à quoi que ce soit, à part s'acheter une barre de chocolat au dispensaire.
Alors la critique du système, et au-delà, si on regarde encore plus haut Pierre Cérizier, il y a aussi la fresque de la société américaine et de son histoire récente, l'histoire de l'immigration, l'histoire de l'immigration depuis les Antilles, les Caraïbes. Ces histoires-là, elles apparaissent justement à travers le passé des détenus qui ont elles aussi des âges différents.
On les retrouve parce qu'elles les importent, et c'est important, comment dire, de rappeler ces histoires. C'est-à-dire que on voit bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est que depuis quelques années, notamment sous l'administration de Trump, c'est en fait de priver une partie de la population de ses droits, mais aussi de son histoire, et de lui imposer une autre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire qui vaudrait aujourd'hui, c'est l'histoire des confédérés, c'est-à-dire des sudistes qui...
Des pionniers aussi.
Voilà, il faut maintenir les statuts en place, etc. Et en fait, ce qu'apporte la série, c'est de dire, mais toutes les minorités ont, elles aussi, de la mémoire. Et leur mémoire, à elles, vaut autant que la mémoire qui serait la mémoire officielle, parce que elle est celle de la majorité blanche.
Et elle est très récente. C'est ça qui est rapporté.
Alors, mais l'histoire du pays est très récente. C'est-à-dire que en gros, c'est un pays qui a 300 ans. Donc effectivement.
Mais l'histoire des minorités est encore racontée par rapport à ça.
Est encore plus récente. Mais je pense que déposséder quelqu'un de sa mémoire, en fait, c'est nier son identité. C'est en fait lui refuser le statut d'être humain. Et on voit bien que ce qui est à l'œuvre, c'est ça. C'est quand même de dire, finalement, les Afro-Américains et Latinos, si on ne tient pas compte de leur histoire, finalement, on les maintient dans un degré inférieur d'humanité.
Est-ce qu'on peut parler directement d'un engagement politique, Marie Turcan? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une prise de position politique directe dans la série?
Ce serait vraiment difficile de dire non. Oh. Mais absolument pas.
Parce qu'on a le sentiment quand même que les cartes sont vraiment rebattues.
Non, mais c'est évidemment un outil politique, et quand on parle de cheval de Troie, c'est pas un hasard, c'est que
en arrivant, que le titre.
Bien sûr, et d'ailleurs le titre Orange is the New Black en français est traduit là récemment sur une pub par Noir est le nouveau cool, ou un truc. J'ai trouvé ça très étrange. Enfin, c'est une manière. En fait, c'est aussi une manière de voir que nous, on a notre rapport en France à la couleur de peau n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis, et que quand on s'adresse, quand on essaie de mettre des mots sur les choses, on a beaucoup plus de mal, on est beaucoup plus pointilleux. Le côté de la série politique, il est évidemment revendiqué par Jenji Kohan, par les scénaristes. C'est une writer's room une très très diverse, ce qui est rare quand même dans le paysage des séries encore aujourd'hui. Et donc en s'entourant de personnes qui savent de quoi elles parlent et qui ont vécu ces choses, ça permet également de traiter de mieux en mieux de ces thèmes-là. Et on arrive évidemment à la question de la représentativité aussi bien à l'écran que derrière l'écran. Et c'est ça qui fait aussi de Orange is the New Black une bonne série politique.
Merci Marie Turcan et Pierre Cérizier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Marie Turcan, vos analyses sont à retrouver dans le magazine Numérama, dont vous êtes rédactrice en chef adjointe. Et Pierre Cérizier, votre blog Le Monde des Séries est à visiter sur le site internet, bien sûr, du Monde. Je rappelle enfin que la 6e deuxième saison d'Orange is the New Black est à découvrir sur Netflix dès vendredi. Et c'est l'heure du live de la grande table d'été. Aujourd'hui, on reçoit Nahé. Bonjour Nahé.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous allez nous jouer ?
Je vais vous interpréter un morceau d'un futur projet qui s'appelle Flamme.
Alors on vous écoute, merci.
Je vous remercie.
Posé sur ce banc, entre l'endroit d'où tu viens et là où tu dois être, tu prends le temps cette fois de penser à demain avant de disparaître. Je vois à peine, aveuglé par la lumière, tu me rappelles les enfants que nous étions hier. Te voir en peine m'attriste et me tire vers les ténèbres. De souviens-tu de cette flamme, comme on ressentait la vie à deux? On a fini par se brûler, à trop jouer avec le feu, à trop jouer avec le feu. Chez moi il est tard et la nuit est longue, noyée dans mes draps que mes larmes inondent. J'hésite à t'écrire pour décrire mon mood, mais je préfère mentir, dire que tout est good, yeah. T'imaginer heureux sans moi te rendrait détestable. T'avouer que je suis amoureux, ça j'en suis incapable. Je sais c'est vrai, j'ai trop de fierté, trop de principe à la con. Heureusement la musique m'aide à gérer mes frustrations. Dans le son j'y mets tout ce que j'ai jamais osé te dire en face. Quand je pensais qu'avec le temps ça irait, je me voilais la face. Oh, maintenant j'affronte la vie, je refuse qu'elle décide à ma place. Faut bien grandir, le temps passe, me lâche, fais du sur place. Tu m'as appris à ne jamais fermer les yeux, pourtant les tiens sont vides. Plus je recule et plus je m'éloigne du déni, yeah. Oh non. Plus je recule et plus je m'éloigne du déni. Plus je recule et plus je m'éloigne du déni, yeah, yeah. Te souviens-tu de cette flamme, comme on ressentait la vie à deux? On a fini par se brûler, à trop jouer avec le feu, à trop jouer avec le feu. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé une autre flamme trop enlisée dans ton mensonge. J'ai perdu pied. Moi, je vis mieux quand je suis vrai. Moi, je vis mieux quand je suis vrai. Oh non. Te souviens-tu de cette flamme, comme on ressentait la vie à deux.
Merci, merci Sinaé, votre premier EP sortira cet automne. Vous serez également première partie du LEJ en octobre à Biarritz le 5, Bordeaux le 6, Paris à la salle Pleyel le 26. Toute votre actualité est à retrouver bien sûr sur votre compte Instagram et Facebook. Merci.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Le cinéma suffit-il à dire le malheur ou bien faut-il aussi le chanter? De film en film, Lav Diaz parcourt les formes esthétiques, les couleurs, les supports pour raconter la souffrance des Philippines telle qu'elle le traverse. Cette fois-ci, il nous propose La Saison du Diable, une odyssée cinématographique où la douleur indicible s'exprime désormais en chansons. Des voix a cappella qui témoignent de la force des arts unis entre eux pour résister à l'oppression qui les étrangle. Et Lav Diaz est aujourd'hui parmi nous, c'est l'invité du portrait de la grande table d'été. Lav Diaz, bonjour.
Hi, how are you? Good to be here.
Merci beaucoup d'être ici.
I don't know how to say it in French, but yeah.
C'est bonjour.
Je ne sais pas dire ça en français.
Lav Diaz, c'est le premier film dans lequel les dialogues sont remplacés par du chant. Un chant a cappella et dans lequel vous apparaissez, vous, comme un réalisateur, musicien, compositeur. Et pourtant, il s'agit d'un film triste.
Yeah. It's not the usual musical that you see.
C'est vrai que ce n'est pas une comédie musicale, hein, c'est un film musical particulier,
instruments and
sans
a bit happy
ses ornements, de l'instrumentalisation, sans ce côté un peu gay de la chose, mais c'est chanté, oui.
And it's bare naked cinema.
C'est un cinéma dénudé, cru.
Est-ce qu'effectivement les choses étaient indicibles dans des dialogues? Est-ce qu'il fallait passer par d'autres supports que simplement les paroles écrites?
Well, it's I embrace you know the genre here. It's the musical genre. So
c'est vrai que quand on s'intéresse au genre du film musical, j'ai utilisé les chansons comme des dialogues.
So I think it's not that hard because we know that it's a musical.
Et je pense que c'était pas si difficile que ça, parce que d'une certaine manière, on sait que c'est un film musical. Effectivement, les acteurs ont dû mémoriser leurs répliques en paroles de chansons, mais ils ont utilisé ça comme des dialogues.
And I adjusted the verses into.
Ce qu'il a fallu que je fasse, c'était effectivement que j'adapte les paroles de chansons pour que ça soit des dialogues qui tiennent la route.
Alors,
un film.
Quand on chante, ça induit aussi du mouvement. Vous avez dû leur apprendre les chansons, puisque c'est des chansons que vous avez composées. Et ça induit aussi une forme de gestuelle que de faire chanter les acteurs. Alors là, c'est vrai qu'on retrouve des traditions qui sont presque celles du chœur grec, des codes du théâtre.
That's the hard part there, because it's a direct negation as well to
oui, c'est vrai que c'était la partie la plus difficile, hein, parce que c'était une négation directe de la convention de la comédie musicale qui généralement a des mouvements très précis qui sont attachés. Hein. Mais là, on a pas ça. On a ces chansons qui sont utilisées comme des dialogues.
What they are maintaining are the melodies and the syllabic measures and the beats.
Ce qui est vraiment très important, c'est les mélodies, c'est la mesure syllabique en fait.
Alors vous, est-ce que le rapport que vous entretenez au cinéma en tant que réalisateur qui a expérimenté plusieurs formes, qui a expérimenté notamment le cinéma du réel, le documentaire, et puis petit à petit, une forme que vous avez un peu créée, qui est une fiction qui se fait aussi témoin de la réalité de votre pays, et dans votre rapport à vous aussi, à la musique, puisque vous êtes un musicien, vous avez composé aussi dans votre jeunesse, quel rapport vous entretenez entre ces deux arts et comment est-ce que vous avez pu imaginer les mêler?
Well, that's the beauty of cinema, because you can incorporate everything.
Je crois que c'est ça la beauté du cinéma,
so
c'est-à-dire qu'on peut tout intégrer, ça comprend tout, ça peut avoir la musique, la poésie, la poésie, la peinture. C'est vraiment c'est quelque chose qui comprend toutes les autres disciplines, hein, et on peut y incorporer tout ce qu'on veut.
Est-ce que ça vous avez marqué le style des est-ce que le style cinématographique des comédies musicales de la musique que l'on peut connaître au cinéma, y compris des compositions musicales au cinéma, c'est quelque chose qui vous avait intéressé ou est-ce que c'était une expérience qui se voulait tout à fait nouvelle et propre à vous que de mélanger ces deux choses-là? D'ailleurs, vous l'avez fait à votre manière, Lav Diaz.
Yeah, I don't when I decided to do the musical.
Quand j'ai décidé de faire ce film musical, j'avais évidemment pas envie de le faire de la manière conventionnelle, j'avais envie de le faire à ma manière, quelque chose qui allait correspondre à ma vision du monde. Mon travail est très politique et poétique, et évidemment, c'est une histoire qui est très tragique, même si on a l'usage de la musique.
Alors ici, dans La Saison du Diable, ce sont des chants de douleur, de tristesse, de malheur. Alors est-ce que la musique permet de conjurer ces émotions-là, peut-être plus que l'image ou encore plus que l'image ?
Yeah, because the lines are sung.
En un sens, oui, parce que je crois que ces paroles chantées, ces répliques chantées amènent quelque chose de différent au film, un ressenti différent. C'est effectivement un peu conceptuel, parce que c'est pas normal, en fait, d'avoir des gens, des comédiens qui chantent leurs répliques. Donc j'ai le sentiment d'avoir fait un film qui est aussi très conceptuel.
And after that, the elements of mythology,
et après, évidemment, il y a les éléments mythologiques, des éléments surréalistes, tout ce qui est lié à la forêt. Donc je crois qu'il faut vraiment aussi considérer le film comme quelque chose de très conceptuel.
On va écouter un extrait de La Saison du Diable et notamment une chanson.
Taglagas ng dahon humahampas ang alon kailan kalalaban sa iyong panahon. Hangin ay may lason, bayay hinahamon, kailan kalalaban sa iyong panahon?
Nasaan na ang anak ng bayan? Gumising ka, oh anak ng bayan.
Lev Diaz, décrivez-nous ce qui est dit dans cette chanson, la Sepaham, qui parle à Hugo.
There are two characters in that scene where they're actually lamenting.
Sont des acteurs en fait qui se lamentent sur le sort du pays et ce pays qui traverse une situation de grande oppression. Et ils en appellent aux jeunes pour se soulever, pour se réveiller. Et c'est une question qui leur est adressée. Littéralement, l'une des phrases dit « Où êtes-vous, vous, jeunes ? Où êtes-vous, vous, les enfants du pays ?»
Est-ce que, justement, la dimension politique des chants apparaît pour vous comme un élément important, à savoir, vous avez écrit ce film dans un contexte qui était celui de l'élection du nouveau président Duterte dans votre pays, et suite à des nombreuses exactions, des disparitions qui avaient été constatées, c'est dans ce contexte-là qu'est né ce film. Alors, il est marqué à la fois par ce cinéma politique qui est le vôtre, mais auquel se surajoute cette chanson politique aussi.
It is a very political film. It's a direct confrontation.
Oui, c'est un film très très politique. C'est une confrontation directe avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau président, Rodrigo Duterte. Même si ce film se passe en 1979 sous la loi martiale de Marcos, c'est une référence directe à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un film qui est empreint de l'esprit du temps et ça parle de ce nouveau président. Et c'est d'une certaine manière un appel au réveil pour que les gens réalisent que le fascisme est revenu.
Alors c'est vrai que ces chansons remplacent les dialogues. Alors il y a effectivement le langage des corps, des corps qui chantent, qui sont en mouvement, mais il y a aussi ce que l'on peut dire par la chanson. C'est pas tout à fait la même chose de faire dire quelque chose à une voix qui chante que de faire parler des comédiens. Qu'est-ce que ça vous a autorisé à faire, Lev Diaz, que d'écrire des paroles de chansons?
Well, it's part of the attribute of the musical,
alors,
the genre.
Ça fait partie, je crois, des attributs du genre, du film musical. Ça veut dire qu'il faut ouvrir ses sens. Il faut accepter la mélodie qui vient, les gestes qui sont appelés, et du coup, il y a une espèce de mélange entre le réel et l'irréel.
Et dans l'écriture même, les compositeurs, les paroliers parfois décrivent justement la chanson comme un art bref, hein, un art qui peut se faire vite, on écrit rapidement des paroles de chansons, même si on y revient plusieurs fois. Est-ce que vous avez expérimenté ça, vous qui faites des films comme des longs voyages, comme ça, des films de 11 heures, des films de 4 heures, est-ce que vous avez expérimenté de couper cette longueur du cinéma avec l'art bref de la chanson ?
Avec ce film, c'est leur langue, en fait, ces chants. Hein, et c'est l'expression de leurs âmes, en fait. Ils ne sont pas vraiment en train de chanter, ils expriment leurs âmes, ils ne se souviennent pas de chansons. Hein, c'est l'expression de leur âme. Et je crois que la différence, elle est là. Ça a l'air d'un film, d'une comédie musicale ou d'un film musical, mais ça n'en est pas vraiment un, je crois.
But there are real songs.
Mais il y a des chansons, elles, c'est des vraies chansons.
Est-ce que ça a fait émerger quelque chose de nouveau ? Vous dites comédie musicale, c'est certainement pas une comédie. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, que vous avez fait le choix.
Oui, c'est difficile de trouver un terme qui explique ça. Mais quand on parle alors de film musical, ou de comédie musicale, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de comédie musicale alors que le film musical existe.
Est-ce que ça a justement ce goût parfois de clown triste, à savoir d'avoir pris dans l'histoire du cinéma les attributs du rire, les attributs du plaisir comme ça, et de les avoir dépouillés de ces ornements, et finalement de livrer un produit qui se retrouve encore plus fort, encore plus intense et encore plus triste, parce que justement il a été détourné.
I just want to explain that,
je veux juste expliquer. Quand j'utilise donc la musique dans le film, le genre du film musical, c'est plus quelque chose qui va me permettre de travailler sur d'autres choses. C'est-à-dire, si vous avez vu le film, j'ai emprunté beaucoup d'éléments à la mythologie, au folklore, aux contes, à des époques réelles comme celle de la loi martiale. Donc, il y a vraiment un mélange de tout ça. Et ce genre m'a donné la liberté, en fait. Hein. Ça m'a permis d'être extrêmement libre. D'une certaine manière, voilà, on a pu choisir avec ou sans lumière. On était totalement libre. Ça nous a donné la liberté, cette utilisation de la chanson.
La vieillesse, la liberté, elle est au cœur de votre travail. Alors c'est peut-être ce que vous dénoncez, c'est l'absence de liberté dans vos films. Et en même temps, on a le sentiment que dans la forme, c'est tout l'inverse. Vous êtes libre de vos formats très longs. Vous êtes libre aussi d'utiliser tous les arts que vous voulez en addition, de faire jouer les acteurs comme vous le souhaitez, d'introduire des procédés qui sont plutôt ceux du documentaire. La liberté, elle est partout.
Oui, c'est exactement ça, oui. Et je crois que l'art est libre, il doit être libre, hein. C'est exactement ça. Avec ce film, je dirais que l'objectif ultime de la vision du film, c'est la libération, c'est la liberté. Hein? Et je crois que les personnages ont deux vertus. Hein? Ils cherchent la vérité.
Justice.
Et la justice.
Yeah. And these are the virtues of freedom.
Et je crois que ça, c'est les vertus de la liberté. Je pense qu'effectivement, la liberté, elle vient toujours, la vraie liberté, elle vient avec la justice.
Art must represent those virtues as well.
Donc, je pense que l'art doit représenter effectivement ces deux vertus-là, en fait.
Alors, vous savez de quoi vous parlez, Lavdiaz, quand vous parlez de liberté, puisque vous avez vécu sous la dictature, vous êtes justement, vous avez passé votre enfance dans ce pays que sont les Philippines, et vous avez vécu à la fois Marcos et puis effectivement le Duterte depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cette histoire politique qui est omniprésente dans votre art ? Vous faites référence notamment à la violence, aux lois martiales.
C'est vrai que j'ai été témoin de l'oppression. J'ai lu beaucoup de choses, en fait. J'ai lu beaucoup de choses sur la la colonisation espagnole et l'oppression. Il y a eu l'occupation japonaise, il y a eu les 24 ans de Marcos. Et ça, ça a été des véritables cataclysmes pour la culture philippine, bien sûr. Et je connais le visage du fascisme, je connais le visage du diable, je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Et je connais le visage de la pauvreté également.
Alors, il y a cette mission peut-être de transmettre, de faire connaître cette histoire des Philippines aussi au reste du monde, puisque vos livres voyagent aussi et circulent dans le monde entier, Lavdiaz. Mais en même temps, on a le sentiment qu'on s'est éloigné du documentaire largement et qu'au contraire, il faut en passer par le mythe, par la magie, par des personnages justement un peu irréels parfois, pour se rapprocher de ce sentiment de la violence telle qu'elle, elle vous a traversé.
Yeah, you use those elements to evoke reality.
Oui, on utilise ces éléments-là pour évoquer la réalité, pour trouver des résonances, pour faire écho à la réalité. La lutte des Philippins, je crois que c'est la lutte de l'humanité. Effectivement, je montre des histoires philippines, mais je crois que beaucoup de cultures peuvent y trouver un lien. Et je crois que voilà, la lutte des Philippins, c'est la lutte de l'humanité aussi. Ah,
je vous propose d'écouter. C'était Lino Broca, hein, cinéaste philippin aussi. C'était dans le Pont des Arts le 5 décembre 1981 sur France Culture. J'aime les films qui posent des questions sur le peuple, sur les conditions sociales du pays. C'est facile techniquement pour moi de faire ces films, comme par exemple Bona, que j'ai tourné dans les taudis, parce que je me sens à l'aise avec ces gens. Ils sont très naturels devant les caméras, et donc c'est simple pour moi. Mais d'un autre côté, c'est plutôt difficile à cause de la censure, à cause du genre de sujet, parce que le gouvernement n'approuve pas le choix de tels sujets. Et les réalisateurs doivent être clairs sur le rôle du cinéma, du tiers-monde. Et je pense que le cinéma du tiers-monde a une responsabilité entière, qu'il a un rôle évident, qu'il ne peut pas se fermer les yeux, qu'il ne peut pas refuser la responsabilité d'avertir le public sur tous ces problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord, Lavdiaz, avec ce que dit Lino Broca, justement, sur à la fois le rôle du cinéma dans votre pays, mais aussi ce que l'on filme et ce que l'on transforme aussi en filmant, parce que c'est aussi ça le travail de l'artiste, que de raconter sa réalité.
The role of the art, or you know, cinema particularly now,
le rôle de l'art, le rôle du cinéma particulièrement est très très important. Je crois qu'il doit être engagé avec ce qui se passe. Le cinéma doit se sentir très responsable, doit être très responsable.
Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'artiste aux Philippines ? Il est question dans cet extrait de la censure, de la condition d'artiste aux Philippines. Comment est-ce que vous, ça a pu affecter votre travail ou en tout cas orienter vos choix, Lavdiaz ?
Lino lived during the Marcos years. He was one of our voices.
Alors, Lino Broca, il a vécu sous la dictature de Marcos. Hein. C'était un de nos frères. C'est quelqu'un qui était très actif pendant toute cette période-là. Il était très clair sur tout ce qu'il faisait. Ça a été un grand modèle pour nous, un vrai paradigme. Sur les questions de résistance, sur les questions de lutte, je crois qu'il nous a montré des choses. C'était une émulation, en fait, vraiment. Qu'il nous proposait.
Et vous, Lavdiaz, qu'est-ce que vous avez pu justement faire de par la persistance justement de régimes dictatoriaux dans votre pays ? Est-ce que vous avez pu tourner les films que vous avez voulu faire ? Est-ce qu'il a fallu tourner ailleurs, se cacher ?
Non, je crois qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on continue la résidence, et je crois que c'est exactement l'essence de ce nouveau film, La Saison du Diable. Hein. Je crois qu'on est revenu au même problème que ceux contre lesquels Lino Broca, hein, l'oppression est revenue. Il faut qu'on continue à lutter, et je crois qu'il faut qu'on continue à être engagé. Il faut qu'on continue à faire un cinéma qui est responsable.
Alors dans La femme qui est partie, un de vos films précédents, mais c'est aussi le cas dans ce film qui va sortir, La Saison du Diable, il est question d'une violence qui parfois est très indirecte. C'est la violence qui apparaît sous la forme de l'enfermement, de l'absence, ou tout simplement la violence qui est hors champ, qui sort du cadre. Alors je pense notamment à La femme qui est partie et ce plan dans les champs où on voit les femmes travailler et petit à petit ça s'élargit et on voit les soldats.
Oui, je ne crois pas que la violence ait été montrée de manière directe, en fait. Hein, d'une certaine manière, le diable est souvent très près. Hein, et d'une certaine manière, si vous baissez la garde... je crois que c'est très important d'essayer de rendre les gens plus avertis, en fait, d'avertir les gens. Il ne faut pas baisser la garde, je crois.
On peut dire que
d'une certaine manière, la culture a échoué, hein, parce que on a effectivement, il y a eu Trump, des gens comme Duterte, voilà. Et je crois que d'une certaine manière, oui, on a la culture, ou les gens de la culture ont baissé leur garde par rapport à des choses comme ça.
Et donc,
je crois que notre engagement contre le mal doit toujours être présent. On ne doit pas relâcher nos efforts à aucun moment. La violence ou le mal sont juste là, au coin de la rue.
Alors c'est une vaste question que de savoir comment est-ce qu'on retranscrit la violence sans forcément la montrer. Est-ce que c'est la scène d'avant, celle de l'attente? Est-ce que c'est la scène d'après, le massacre que l'on montre? Est-ce que c'est justement ce temps suspendu et angoissant que vous faites planer aussi, Lav Diaz?
En cinéma, il faut que je maintienne la dignité de mon travail et je n'aurais pas envie de montrer la violence, en fait, parce que je crois que la violence, elle est déjà très, très présente. L'image, je crois, d'un endroit désolé est en elle-même très violente. L'image, déjà, d'une personne pauvre est suffisamment violente Cette question de montrer la violence, pour moi, est quelque chose qui se pose plutôt en faisant ressentir cette violence. Je crois qu'on n'a vraiment pas à la montrer. Je crois que la violence est plus forte si vous contentez de la faire ressentir.
La violence que l'on ressent très fortement, c'est aussi tous ces sentiments qui sont autour de la violence, à savoir la peur, la menace, l'inquiétude, le vide.
Je crois qu'effectivement la violence c'est quelque chose de présent, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder, et ça pose la question de comment on la regarde.
It's always there. Even if you close your eyes, you know.
Cette violence, même si vous fermez les yeux, il y a toujours cette violence malgré tout.
And violence has many levels and has many forms.
Il y a évidemment beaucoup de niveaux de violence et beaucoup de formes de violence.
Dans La Saison du Diable, on chante, on invoque. Alors, est-ce que finalement, il est question d'invoquer aussi les esprits, puisque, comme dans toute situation, dans tous les pays où il y a eu des massacres, il y a aussi des fantômes, il y a aussi des esprits qui planent au-dessus de ceux qui ont eu la chance de survivre. C'est aussi une thématique que l'on retrouve dans votre film, celle notamment de l'histoire de Quantista, qui apparaît comme une sorte de cœur grec.
The issue of repetition.
Oui, c'est la question, en fait, de la répétition, aussi la question de la surveillance et l'invocation. C'est aussi quelque chose qui s'adresse au diable, bien sûr.
Il y a aussi l'image du tyran qui apparaît. Est-ce que vous aviez la volonté, justement, en quelque sorte, la Viaz, d'essentialiser tout ce qui pouvait être des procédés artistiques dans la manière, justement, de dire, de chanter, etc., pour que cette histoire ne soit pas simplement une histoire philippine, mais qu'elle puisse être appliquée à toutes les figures de tyrans?
Oui,
tout à fait. C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que l'histoire de ma culture, c'est aussi tout ce qui se passe dans toutes les cultures du monde. Et je crois qu'en fait, toutes les cultures du monde peuvent se sentir concernées par ce qu'est la lutte des Philippines ou des Philippins.
It's all about empathy. We know the struggle.
Et tout a à voir avec l'empathie. On sait, par exemple, des choses sur la lutte des gens en Syrie, des gens en Libye.
Il y a ce personnage de Narciso dans le film qui est un dictateur à double face par une sorte de procédé comme ça, technique. Vous arrivez à lui donner un vrai double visage. Et lorsqu'il parle, ses discours ne sont pas traduits, ne sont pas sous-titrés non plus. Donc c'est comme s'il parlait une langue universelle qui est la langue du dictateur. Pourquoi ?
We know how dictators talk. We know
how. Parce qu'on sait comment ils parlent, les dictateurs. On sait comment les populistes parlent, comment les leaders populistes parlent. Il y a une espèce de rhétorique qu'on connaît bien. On n'a pas besoin donc de faire des sous-titres.
Qu'est-ce que vous souhaitiez montrer justement de ce rapport à l'expression, puisque l'expression, elle est toujours un peu tordu, changé dans le film, puisque on parle pas, on chante, ou quand on parle, on ne vous comprend pas vraiment. Les mots sont donc un peu trompeurs, ou ils sont au service du pouvoir.
Alors, j'ai créé les chansons à partir des personnages, en fait. Donc, si on parle de Narciso, c'est le diable en personne. Il fait des promesses, mais on sait que derrière, il n'y a que de la manipulation. C'est toute la saleté du monde qui représente. Et dans le cas du poète, Hugo, c'est à propos de sa recherche de la liberté, de sa personnalité qui est en plein conflit, de comment il en appelle aux choses. Pour la femme qui vit dans la forêt, il s'agit de la justice. Et donc, chaque personnage a une perspective.
Chaque personnage a une perspective et chacun se retrouve quand même un peu déçu. C'est à la fois un monde idéaliste que vous décrivez, un monde très beau de par l'esthétique que vous utilisez, même si il peut y avoir quelque chose de très désespéré dans ce qu'on peut y retrouver. Et en même temps, finalement, ça finit mal pour tout le monde, Lav Diaz. C'est un monde désespéré que vous décrivez.
But there's also struggle,
oui, mais il y a aussi la lutte, il y a aussi la résistance. D'une certaine manière, ils sont démunis, mais ils ont une espèce de conscience qu'un jour il se passera quelque chose, parce qu'il y a des gens qui bougent, par exemple ce sage qui essaie d'éduquer les gens par rapport aux raisons qui peuvent expliquer leur oppression. Il y a le poète qui commence à comprendre.
Il commence à
comprendre qu'il doit bouger et qu'il doit trouver une certaine vérité, qu'il doit commencer à organiser les choses. Ils ont des idéaux comme la libération. Il faut que ça soit bien fait. Donc, d'une certaine manière, ça fait partie des problématiques du film.
Dans le film, l'artiste, le poète, ne s'en sort pas mieux que les autres, finalement. Pourtant, lui, il a cette arme-là qui pourrait lui permettre peut-être de transcender ces questions.
Je n'ai pas créé
de Superman dans le film. C'est-à-dire que le poète, c'est un être humain, vraiment, avec toutes ses contradictions. Mais il sait que la vérité est la chose la plus importante. Et c'est la même chose avec le sage. C'est-à-dire, la prise de conscience est importante, rééduquer les gens, dire aux gens, il faut que vous compreniez vraiment.
Alors, c'est une critique qui est régulièrement faite aux cinéastes que de rechercher parfois à esthétiser la violence. Il y a ces très belles images en noir et blanc qui sont aussi votre marque de fabrique. Parfois, des images, ces plans fixes dont on voit que le cadrage a été recherché pendant très longtemps. Et finalement, cette image un peu photographique, très belle, est-ce que elle ne vient pas un peu en contrepoint de ce propos?
Well, that's the paradox of aesthetics.
Oui, c'est le parti pris de l'esthétique.
You create beauty, but you know that beauty is sometimes harmful.
Créer la beauté, mais vous savez que la beauté peut faire mal.
D'accord. Yeah. Donc vous êtes à l'aise avec ça.
It's very broad, abstract.
So you are at ease with this.
Yeah, it's part of aestheticism.
Oui, je crois que ça fait partie de l'esthétisme.
We grapple with that issue as well as artists.
En tant qu'artiste, on s'intéresse aussi à cette question-là, c'est-à-dire que quand on crée, par exemple, une peinture, on sait qu'il y aura là des mystères, des contradictions.
And you just hope that people will get it.
On espère juste que les gens vont comprendre.
Lev Diaz, quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec les Philippines, avec votre pays? Il y a une partie de ce film qui a en réalité été tournée en Malaisie. Vous-même, vous avez fait des allers-retours. Vous avez vécu à l'étranger, puis être revenu, reparti. Quel rapport vous entretenez justement avec votre pays aujourd'hui? Est-ce que vous continuez à y vivre? Et est-ce que c'est vivable pour vous?
It's not easy to live in the Philippines because you see poverty, you see contradictions.
Aux Philippines, vous êtes confronté à la pauvreté et à les contradictions tous les jours.
Making films about the struggle, I'm still making films to represent.
C'est pour ça que je fais toujours des films sur la lutte pour essayer de montrer tous nos sacrifices, toutes nos douleurs et toute notre tristesse. Et je crois que voilà, je n'arrive pas en tant que cinéaste à me détendre par rapport à ces questions-là.
I cannot make films just for art.
Je ne peux pas faire des films seulement pour l'art. Je dois faire des films qui posent toutes ces questions et je dois avoir un espoir d'une certaine manière par rapport à toutes ces questions.
Merci Lev Diaz et merci à Pascal Fougère d'avoir assuré la traduction de cette émission. Je rappelle que votre film s'appelle La saison du diable et qu'il sort aujourd'hui en salle. Je vous donne donc rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation Marie Placé, à la technique Julien Calva et Élise Le. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.